Merci pour ces beaux textes. Je vais voir juste si notre télécommande marche. Très bien. Prions. Seigneur, ta parole nous saisit, elle nous interpelle, elle nous corrige, elle nous reprend, elle nous encourage, elle nous apaise, elle nous amène plus loin. Seigneur, nous te demandons qu'il en soit ainsi ce matin également. Et nous te remercions par avance pour ce que tu souhaites nous dire, chacun et chacune. Amen. Je vais prendre un texte dans l'évangile de Jean ce matin, mais je ne vais pas vous dire tout de suite lequel. Parce que ce dont je vais vous parler d'abord, c'est effectivement du contexte de ce texte. Et le contexte est celui-là. Le repas de la dernière Pâque vient d'être partagé. Juste avant ce repas, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et maintenant, le compte à rebours a commencé. Jésus a vu Judas sortir de la pièce parce que sa route se sépare désormais de celle de son maître. Et Jean, l'auteur de cet évangile, a concentré ici, dans cette partie de son récit, entre les chapitres 13, verset 31, à 16, verset 33, un enseignement de Jésus qui est davantage qu'un enseignement. On peut dire que c'est une révélation progressive et qui est d'une rare densité pour les disciples. C'est une révélation graduée, donnée par Jésus. Certains appellent ces chapitres communément le discours d'adieu de Jésus. Et c'est comme si après les expériences vécues, la vie partagée, les chemins parcourus ensemble, Jésus se concentrait à partir de maintenant sur les questions les plus importantes. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'équiper les disciples pour ce qui va suivre. Ils en ont bien besoin. Et alors, leurs questions fusent. Regardez plutôt. Je résume ce que dit Jésus. Mais je mets l'intégralité de la question chez ses interlocuteurs. Entre 31 et 38, je vais vous quitter. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Question de Pierre. Où vas-tu ? Je veux te suivre maintenant. Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Je vais vous préparer une place dans la maison de mon père. Thomas. Où est-ce ? Comment y va-t-on ? Je suis le chemin vers cette maison du père. Vous me connaissez ? Donc vous connaissez mon Père, vous l'avez vu à travers moi, Philippe. Montre-nous le Père. Après tout ce temps, tu n'as pas vu les œuvres du Père et le lien du Père avec moi ? Je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est si vrai que vous allez pouvoir demander des choses en mon nom. Je pars, mais je reviendrai. Et en attendant, c'est l'Esprit Saint qui vous assistera. Je me révélerai à celui qui m'aime, Jude. Pourquoi ne te révèles-tu pas au monde entier ? Nous établirons notre demeure, mon Père et moi, chez celui qui m'aime et qui obéit à ma parole. Et après tous ces échanges intenses, Jésus les entraîne à l'extérieur. Levez-vous, partons d'ici. Jean a lui-même vécu de très près ces échanges, mais il n'y a que lui qui les rassemble avec une telle intensité. Au moment de cette dernière Pâque partagée, les autres évangélistes font bien mention de la trahison de Judas et puis de la promesse de Pierre, que Pierre ne tiendra pas. Mais c'est Jean qui est le seul à rassembler tous ces échanges cruciaux qui vont se poursuivre au chapitre 16. Où Jésus continue de préparer les disciples à la séparation. Tout cet épisode, il est donc très dense. Et les questions des disciples, vous l'avez vu, le montrent. Ça fait beaucoup d'un coup à assimiler. D'ailleurs, dans le chapitre 16, Jésus dit à un moment donné qu'il ne peut pas aller plus loin parce que c'est trop lourd à porter pour eux. Ça fait beaucoup à assimiler, oui. Ils veulent en savoir plus. Et c'est là que Jésus va introduire une image forte, parce qu'il faut bien laisser une image aux disciples, une représentation à laquelle ils vont pouvoir s'accrocher dans les temps qui vont s'ouvrir. C'est des temps qui ne sont pas faciles. Et Jésus ne leur ment pas sur ce point. Ils vont vivre l'absence. Et voilà ce texte. « Moi, je suis le vrai plant de vigne, et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les purifie afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. » Texte tellement connu. Alors pourquoi l'image de la vigne ? Moi, je suis le vrai plant de vigne, ou le cep, et mon Père est le vigneron. Ça ne peut que parler aux disciples. Pourquoi ? Parce que dans leur arrière-plan culturel, la vigne représente quelque chose de très particulier. Dans la bouche des prophètes, la vigne, c'est le peuple d'Israël. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel emploient cette image. Dans la bouche du psalmiste, psaume 80, versets 9 à 17, le peuple d'Israël est comparé à une vigne qui a été arrachée en Égypte et replantée dans le pays promis. Donc la vigne, c'est une image qui parle aux disciples. C'est celle du peuple que Dieu se constitue et sur lequel il veille. Donc quand Jésus se compare à une vigne que Dieu plante, ce que je peux comprendre en tant que disciple, c'est que Jésus fait référence à Israël. Tiens. Mais je remarque alors autre chose. Jésus dit, moi je suis le vrai plant de vigne. Est-ce qu'il y aurait plusieurs façons d'être Israël ? Une vraie, une fausse ? Et tout de suite, si je suis Matthieu, il a une culture de l'Ancien Testament approfondie, le prouve à travers l'Évangile qu'il a écrit. Eh bien, si je suis Matthieu, je me souviens d'un passage, ce passage d'Ésaïe que je citais tout à l'heure, chapitre 5, versets 1 à 7, où Ésaïe, où l'Éternel, à travers la bouche d'Ésaïe, se désole de ce qu'est devenu Israël, de ce qu'est devenu cette vigne, alors que tant de soins lui avaient été apportés. Vous pourrez relire ce passage, elle n'a plus qu'à être détruite. Ce n'est plus une vigne. Et on va pouvoir laisser d'ailleurs le bétail brouter dedans. Et Israël n'est plus la vigne que Dieu avait plantée. Et Jérémie dit les choses à la Jérémie, de façon un peu plus expéditive. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plant. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère ? Voilà comment le dit Jérémie. Et je comprends alors que Jésus, en disant le vrai cep, marque la différence. Il est lui, le véritable Israël désiré par Dieu. Il inaugure un nouveau peuple, une nouvelle vigne que Dieu implante tel un vigneron. Et cette vigne est une image du royaume de Dieu que Jésus installe par sa venue. Je note aussi que Jésus poursuit la métaphore dans le verset 2. Que dit-il ? Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les purifie, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Et là, Jésus, alors je parle devant des vignerons, donc je me méfie, hein. Jésus fait allusion non pas à la taille d'hiver, mais à la taille d'été, d'entretien. C'est une taille qui a un objectif précis, augmenter le rendement. On limite quelquefois le nombre de grappes par sarment pour avoir de beaux fruits, et on coupe surtout les sarments qui n'en ont pas. Et ainsi, la sève alimente les sarments qui en ont besoin. C'est juste, c'est ça. Oui, Dieu s'occupe de sa vigne, de toute sa vigne, et il prend des décisions en examinant chaque sarment. Alors, ce qui peut nous troubler, c'est que tous les sarments ne vont pas porter de fruits, et ils sont pourtant greffés sur le même cep, Jésus. Tous les sarments en moi. Christ communique sa sève à tous les sarments, dont on espère qu'ils portent tous du fruit, mais certains se révèlent stériles. Et comme le dit Jésus, il vient un moment où ils sont enlevés. Ces sarments sont nourris, mais cette nourriture n'est pas digérée, elle n'est pas transformée pour se prolonger en fruits. Ils ne produisent que des feuilles. Et à un moment donné, ils sont détachés du cep. Et c'est le divin vigneron, notre Père, qui prend cette décision. Pas nous, c'est lui qui prend cette décision. Et chez beaucoup de commentateurs, avec cette phrase dure, eh bien, on pense bien sûr à Judas dans le contexte de ce discours d'adieu, car c'est juste ce qui vient de se produire. Judas, un temps attiré à Christ, disciple parmi les disciples, qu'il a même suivi et qui se laisse envahir par d'autres priorités, il fait illusion un temps, mais il est détaché et c'est le divin vigneron qui prend cette décision. Comment comprendre cela ? Pour le comprendre, il faut sans doute revenir à une parabole célèbre de Jésus, la parabole du semeur. Parmi les quatre terrains qui reçoivent la même semence, c'est-à-dire la parole de Dieu, il y en a un que Jésus décrit ainsi. Puis, il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte, aussitôt, avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Et Jésus le dit lui-même, oui, ils ont reçu la parole, avec joie. Mais cette parole, elle n'a pas fait ce chemin. On a pu croire un moment que la parole reçue allait s'enraciner profondément dans le cœur et donner plus tard des épis à récolter, mais rien ne se passe. C'est un élément de la taille. Mais alors, qu'en est-il des autres sarments, ceux qui donnent du fruit et qui ont néanmoins besoin d'être purifiés ? On peut dire aussi, à partir du même mot grec, nettoyés, purgés. Je me demande d'ailleurs si on ne parle pas de purge dans la vigne à un moment donné. Enfin, tu me diras ça après. Eh bien, ces sarments, ils font aussi chacun l'objet de l'attention du vigneron. Il va falloir éliminer les jets ou les gourmands, je ne sais pas comment on les appelle, toutes ces tiges parasites qui consomment également de la sève, alors que toute l'énergie du cep doit aller aux grappes qui apparaissent déjà. Et là aussi, il y a du nettoyage à faire. Pour que les fruits soient plus gros, plus beaux, plus abondants. Et le fruit est là, c'est encourageant. Mais le vigneron est là pour optimiser le résultat, le rendre encore meilleur. Alors tout ça, cette image de la vigne, ça nous fournit une image utile pour nous. Il est bon de se poser régulièrement la question : quels sont les éléments qui parasitent la parfaite circulation de la parole du Christ en nous pour qu'elle ait un maximum d'effet ? Et sur ce sujet-là, chacun ne peut répondre que pour soi-même. Chacun le sait au fond. Nous avons besoin, et c'est le but de l'image de Jésus, d'être régulièrement émondés, c'est-à-dire débarrassés de nos pousses mortes, de nos parasites, pour pouvoir mieux réaliser notre vocation de sarment, porter le meilleur fruit possible. Alors évidemment, en écoutant Jésus développer cette image, les disciples ne peuvent que se poser des questions. Et peut-être parmi nous, nous aussi, hein. Où est-ce qu'ils en sont exactement les disciples ? Comment est-ce qu'ils se situent dans cette vigne ? Jésus a anticipé leur questionnement. Il est tout à fait compréhensible. Et il les rassure dans ce verset 3. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. Qu'est-ce qu'il leur dit en définitive ? Il leur dit que sa parole enseignée, lorsqu'elle est reçue, accueillie et donc prise au sérieux, et c'est le cas de tous les disciples présents au moment où il parle, cette parole purifie celui qui l'écoute et qui s'attache à elle. Elle fait du disciple un véritable sarment rattaché au cep. Et ce sarment devient alors capable de produire du fruit. Quelque temps auparavant, Jésus ne disait pas autre chose aux Juifs qu'il interrogeait, c'était dans le chapitre 8, verset 31. Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, il parle bien à des Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. La parole que je vous ai annoncée. Et cette puissance de transformation de la parole, Pierre la décrit ainsi : par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être. Car vous êtes né à une vie nouvelle par une semence incorruptible, et cette semence incorruptible, c'est quoi ? C'est la parole vivante et éternelle de Dieu. 1 Pierre 1, 22, 23. On peut se poser la question, dans ce passage de Jean 8, sur ce que veut dire vraiment « demeurer ». Les paroles que Jésus vient de prononcer, elles sont fortes. Et elles vont éclairer de façon particulière toutes celles qui suivent, à travers lesquelles un verbe va revenir sans arrêt. 9 fois, juste dans le passage que j'ai choisi. Parce que pour être complet, il faudrait prendre l'ensemble des versets de ce passage. Je n'en ai pris que les versets 1 à 8. 9 fois le verbe demeurer. Le voilà. Où est l'enjeu ici ? Au chapitre 14, le chapitre qui précède ce passage, Jésus avait déjà répondu à Jude quelque chose qui avait très certainement surpris ce dernier. Jude posait la question : Seigneur, pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux te manifester et non au monde ? Et Jésus lui répondit : Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole, mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Dans la question de Jude, il y avait toute la dimension de la révélation. Révèle-toi, impose-toi, impose-toi dans ce monde. C'était une attente, on le sait, à l'époque. Et Jésus répond, résidence permanente. Je veux une révélation forte, impose-toi. Et Jésus dit, non, je suis prêt à venir habiter de façon permanente chez celui qui m'aime et qui obéit à ma parole. » Voilà la réponse de Jésus, et voyez le décalage qu'il y a. « Nous ne nous imposerons pas à tous, Jude, mais nous viendrons habiter chez celui qui m'aime et qui accueille ma parole. » Et le mot « demeurer » ici, on pourrait le remplacer par le mot « rester ». Il traduit l'idée qu'on reste au même endroit et on y reste dans la durée. Voilà ce que veut dire ce mot. Et on pourrait presque actualiser ce texte, alors je me suis amusé à le faire, ne serait-ce qu'à partir sur les versets 4 et 5, en remplaçant les choses. Habitez chez moi, et moi j'habiterai chez vous. On pourrait le dire comme ça. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous n'habitez pas chez moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui habite chez moi et chez qui j'habite portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors c'est peut-être un peu fort cette façon de dire les choses, mais c'est bien cette idée d'intimité avec Dieu et avec son fils Jésus que Jésus veut faire saisir à Jude. J'habiterai chez celui qui m'accueille. Je ne suis pas du style à m'imposer à fracasser la porte. Par contre, je viens habiter chez celui qui m'aime et qui m'accueille. Et la proximité, elle est nécessaire pour que la vie soit insufflée du cep au sarment. C'est bien une connexion permanente dont on parle ici. Alors à ce stade, il y a quand même deux contresens dans ce texte qu'il faut que nous évitions. Parce qu'on les voit quand même surgir très très souvent. Et je vais m'arrêter sur chacun des deux très brièvement. J'ai vu certains commentateurs un peu perturbés par le verset 5, notamment par ce fameux « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et certains sont tentés de nuancer ce que dit Jésus. Mais si, quand même, l'être humain est capable de bonnes choses, de bonnes œuvres, d'actes positifs. Mais ça, c'est une lecture qui extrait le bout de phrase de son contexte. Que dit Jésus ? Il ne s'adresse pas au monde entier. Et ça, il parle à ses disciples. Et il leur dit, si vous voulez vivre une vie de disciple, vous ne pouvez la vivre qu'en étant alimenté par le cep que je suis. Il ne s'agit pas d'autre chose. Alors, heureusement que, du fait de la grâce commune, les êtres humains sont aussi capables de belles et de bonnes choses. Ils en seront capables, j'espère, encore un peu de temps. Mais il ne s'agit pas de cela ici. Si je prétends être disciple, je ne peux l'être qu'en étant branché sur celui qui m'alimente, le cep, le plant de vigne. Et au verset qui précède, Jésus l'avait déjà dit. Autrement, il avait dit, un sarment ne saurait porter du fruit tout seul. Il ne peut pas vivre en autonomie s'il veut vivre une vie de sarment. Il est dépendant. Ça, c'est un premier contresens possible quand on s'amuse à prendre des bouts de versets et à les extrapoler. Le deuxième contresens qu'on peut avoir, il réside dans le verset 7, et il fait aussi l'objet d'incompréhension très souvent. On extrait encore une fois un bout de phrase, et on lui fait dire ce qu'il ne dit pas. Demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Et là, on a même vu des prédications sur ce sujet. On pourrait nourrir une sorte de fantasme de toute puissance parce que je suis disciple, mais j'acquiers des super pouvoirs. C'est tentant. Ben oui, c'est tentant, sauf qu'on fait totalement fausse route parce qu'on oublie la condition qui précède. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si c'est la parole du Christ qui me nourrit, si je me laisse habiter par l'Esprit de Dieu, en résumé, si je suis un disciple, alors je ne vais pas demander quelque chose qui procède de ma volonté propre, ma demande sera orientée vers la volonté, la propre volonté de Dieu. Le même apôtre, Jean, a écrit dans une lettre ultérieure la chose suivante. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Quelque chose selon sa volonté. C'est un contresens qu'on voit malheureusement régulièrement fait sur ce sujet. Alors en résumé, et avant de terminer avec la troisième question, vouloir être disciple, c'est vouloir de cette relation de proximité avec notre Dieu. Vouloir être disciple, c'est aimer Christ, ce modèle, au point de vouloir lui ressembler. Et puis c'est désirer se laisser interpeller régulièrement par sa parole, parce que sa parole a pour nous du prix. Vouloir être disciple, c'est réaliser quotidiennement que nous ne sommes pas autosuffisants, même avec de grands et beaux principes, avec de grandes et belles valeurs, de grandes et belles idées, mais que nous avons besoin, au contraire, d'être alimentés. Et vouloir cette relation de proximité, c'est aussi s'attendre à ce que nos propres aspirations, nos propres désirs soient réorientés et que nos priorités changent. Voilà ce que ça signifie, demeurer en moi quand Jésus s'adresse à ses disciples. À l'inverse, Jésus a une image très dure pour ceux qui ne demeurent pas en lui. Jésus, on l'oublie trop souvent, dit des choses nettes, précises, tranchantes, quelquefois difficiles à entendre. Ce sont des serments qui ont bien une allure de serment dont il parle. Si quelqu'un ne demeure pas en moi et on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés, ceux qui précèdent, ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. À l'intérieur du sarment, il n'y a plus rien qui se passe. Et ces sarments sont écartés de la vigne, écartés du royaume. C'est radical. C'est radical. Mais ça rappelle ce que Jésus dit à la fin du sermon sur la montagne, Matthieu 7, 21-23. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Troisième et dernière question, que signifie porter du fruit ? Alors vous avez remarqué que Jésus emploie de multiples reprises cette expression. On la trouve ailleurs, dans les paroles qui nous sont rapportées, mais vous avez noté aussi qu'il ne définit pas le fruit. Il n'y a pas de définition du fruit. Le fruit n'est... Jésus n'est pas en train de dire « Le fruit, c'est ça, ça, ça et ça et ça. » Paradoxal. La finalité d'être disciple, c'est de porter du fruit, et Jésus ne décrit pas soigneusement, de A à Z, quel est ce fruit. Alors ça interroge. Porter du fruit, mais quel fruit ? Beaucoup cherchent des réponses à ce sujet. Vous en avez de multiples sortes. Le fruit, j'ai entendu, j'ai lu, j'ai vu, c'est l'ensemble des petites choses que le disciple apporte autour de lui, des petites choses quotidiennes positives qui font du bien à ses relations. Certains iront parler de bonnes œuvres, de bonnes actions, du bien que l'on fait autour de soi. D'autres diront encore que le fruit, ce n'est pas autre chose que le fait de générer des disciples. Ils se serviront de la parabole du semeur, où les graines tombées dans la bonne terre en rapportent 30, 60, puis 100. Et pour eux, le fruit que portent les vrais disciples, c'est des disciples. Certains iront jusqu'à évoquer ce que dit l'apôtre Jacques dans sa lettre, à savoir que la foi réclame d'être concrétisée par des actes, sinon cette foi, elle est morte. Bref, être disciple, ce serait produire des actes. Cette conception, elle peut s'entendre, on peut l'entendre, mais elle recèle un petit piège. Je peux en arriver à vouloir produire des actes ou des œuvres qui vont faire la démonstration que je suis un disciple du Christ parce qu'il faut le faire. Normalement, un disciple de Jésus, entre guillemets, ça fait ça, ça fait cela. Et d'ailleurs, il y a bien des gens autour des chrétiens qui savent mieux que les chrétiens ce qu'ils devraient faire. Alors, quel est ce fruit ? À quoi ressemble-t-il ? On a quand même besoin de se le représenter. Peut-être que ce que Paul écrit aux Galates élève un peu le débat et nous montre que le fruit de l'Esprit en Dieu, le fruit de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu en nous, ça ressemble finalement à une grappe de raisin avec 9 graines. Ah, il ne veut plus. Je vais y arriver. Non, c'est pas grave. Si tu arrives à me le remettre, Paul. Juste avant. Voilà. Il nous aide. Paul nous aide dans l'Épître aux Galates à nous dire qu'est-ce que pourrait être ce fruit. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà quelque chose déjà d'un peu plus concret quand on cherche à mieux cerner ce que peut être le fruit. Je sais un peu mieux maintenant à quoi ça ressemble et à ce qu'on peut s'attendre à trouver chez moi si je veux être un disciple. Mais il n'y a aucune contradiction entre le fait d'avoir ce fruit et que ce fruit lui-même entraîne et produise des actes concrets. Il n'y a pas de contradiction. J'entends quand même aussi une deuxième chose. Je ne peux pas le produire moi-même. Un sarment ne saurait produire du fruit tout seul, disait Jésus tout à l'heure. C'est l'Esprit de Dieu qui le produit en moi. Et finalement, c'est une question qui a du mal à rentrer dans nos têtes, cette question-là. Ça a du mal à rentrer. Le fruit que je porte n'est pas le mien. C'est l'Esprit de Dieu qui le produit en moi et par moi. Et Jésus disait tout à l'heure encore, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est la sève qui rend le sarment capable de fructifier. Alors, ce n'est pas notre fruit, mais nous avons l'honneur de le porter. Pour conclure, j'emprunte à une méditation d'un moine carmélite les mots suivants que je trouve illustratifs, sauf qu'il ne veut pas. C'est juste avant et encore avant. Voilà, ils étaient en désordre. Et si nous étions disciples, dit-il, écrit-il, non en raison des fruits produits et portés, mais par notre art d'un laisser-faire à travers nous, d'une capacité à laisser la vie du Christ nous traverser et vivre en nous. À l'image de Paul, nous pourrons alors dire « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi ». Le fruit ne vient pas de nous et n'est pas pour nous, il est produit à travers nous, par celui qui est la source de toute vie. Et il est destiné à celui qui le cueillera et s'en nourrira. Il nous revient seulement de demeurer attaché au cep pour laisser sa vie jaillir au terme de l'émondage et d'une longue maturation. Et Jésus nous rappelle finalement la finalité de tout ça. Et c'est notre dernière diapositive. Si vous produisez du fruit en abondance, c'est le verset 8 de ce même passage, et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Au fruit, on reconnaîtra l'arbre. Et c'est finalement là l'essentiel. Tout ce que nous pouvons ambitionner, c'est que nous puissions percevoir notre Père, que l'on puisse percevoir notre Père autour de nous, à travers notre petite vie de sarment. Amen.